RCF.
Nous refermons avec vous, Marie-Hélène Mezzaroba, notre dialogue autour de votre livre « Ce que dit la Bible sur la jalousie » paru chez Nouvelle Cité. Vous nous avez aidé à comprendre qu'il faut faire tout un travail pour mettre à jour déjà la jalousie, reste à la traverser, à en sortir. Vous dites que l'humilité est l'antidote à la jalousie. Pourquoi l'humilité peut nous aider?
Je crois que l'humilité, enfin, je la définirais comme le fait d'accepter d'être rien que soi. C'est-à-dire de se dire je ne suis que moi, pas plus que ci ou ça, dans le corps j'ai une part, dans le corps social, dans le corps ecclésial, et j'ai ma part et elle est décisive, mais je reçois la vie finalement des autres, c'est-à-dire de la relation avec les autres. Chaque partie du corps vit parce que le reste du corps fonctionne bien, et donc de recevoir la vie et d'arrêter de croire qu'il faudrait se la donner, qu'il faudrait être à la hauteur de je ne sais quoi. Il suffit finalement d'accueillir. Ça, c'est tout simple, mais ça suppose de pas être le donateur. Ça suppose d'accepter de recevoir.
Donc accepter de recevoir ce qui m'est donné pleinement, qui est mon don particulier à moi, sans non plus justement envier ce qu'a l'autre. Hein, nous l'avons déjà dit. L'humilité, c'est pas se rabaisser. Parce que ça peut être aussi une tentation parfois dans l'Église.
Ah, ça a été. Je crois qu'on a été vraiment élevé dans l'idée de que l'humilité était une vertu et que du coup il fallait humilier les gens en provoquant, je dirais, un orgueil ou une jalousie inversée mais camouflée, féroce. L'humilité, je crois que c'est se réjouir d'être vivant alors qu'on a conscience de sa fragilité. C'est-à-dire de se dire oulala, je suis pas grand-chose, mais pas au sens des valorisations, c'est-à-dire on est si peu, on est fragile, mais ne pas avoir peur de cette fragilité, et on n'a pas non plus un don qu'il faudrait conserver pour toujours. C'est-à-dire nos dons, en un sens, on les perd quand on vieillit, quand on les perd, mais croire que on en aura d'autres, que la vie nous est donnée autrement, que Dieu ne nous fait pas défaut, que la vie ne nous fait pas défaut tant qu'on est vivant.
Vous citez dans votre livre sur la jalousie le cheminement de Pierre, le disciple de Jésus. Alors qu'est-ce qui s'est joué pour lui? Bon, il dit qu'il est prêt à donner sa vie pour son ami et puis il va trahir Jésus.
Ben, Pierre est enthousiaste, c'est-à-dire il aime Jésus, puis il se croit fort, puis on est bien comme ça, on a envie, moi je t'abandonnerai jamais. Et dans la façon même dont il le dit, moi je ne te quitterai jamais, même si tout le monde te quitte, moi je ne te quitterai pas. Il se dénonce lui-même, je veux dire, il dénonce sa prétention à faire fond sur lui-même. Et ça va craquer avec l'expérience de la peur. Il y a une forme de lâcheté, mais que n'importe qui pourrait connaître, de nous dire, mais quand on veut nous porter nous-mêmes et être héroïque, eh ben ça marche pas. Il y a toujours un moment où notre héroïsme se casse la figure, et c'est la chance aussi de Pierre, c'est-à-dire que son héroïsme va tomber quand il va renier Jésus. Donc il découvre sa fragilité, que son héroïsme avait une limite.
Donc il y a un chemin d'humilité de Pierre.
Je dirais il est même alors humilié par la découverte de sa fragilité.
Ça, ouais, il aurait pu être désespéré d'ailleurs de ce qui s'est passé.
Oui.
Il ne l'est pas, il ne va pas l'être grâce à Jésus.
Il ne va pas l'être parce que lui ne laisse pas perdre sa relation à Jésus. Alors Jésus déjà l'avait averti en lui disant, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il se souvient de Jésus et je crois qu'il a justement une relation à Jésus qui est telle qu'il a confiance en Jésus. Il se retourne vers Jésus. Il pleure de l'avoir trahi. Il est malheureux. Mais je crois qu'il continue à l'aimer et à savoir que Jésus l'aime.
Donc, Pierre fait tout un chemin d'humilité. Finalement, par cette chute, il se dit, je suis un parmi d'autres. Je suis pas le meilleur. Il croyait pouvoir, comme ça, par sa seule force, aider Jésus. Et pourquoi c'est un antidote à la jalousie, cette façon d'être dans la vie?
Je crois que ça nous sort quand même de la comparaison. Je veux dire, une fois qu'on se qu'on accepte, j'allais dire, d'être si peu, d'être que ça, et aussi de donner tout ce qu'on a à donner dans l'instant, sans le compter, eh bien, on reçoit des autres. Thérèse d'Avila, je crois, disait, ou Thérèse de Lisieux, être assis à la table des pêcheurs. C'est-à-dire, on est assis avec les autres qui sont aussi manquants, en défaut, qui sont branlants d'un endroit ou d'un autre. Et on est une assemblée d'éclopés, mais d'éclopés heureux qui sont dans une relation fraternelle et qui reçoivent la vie tous ensemble. Du coup, on n'est plus en train de se dire, lui, il a plus, moi, j'ai moins, etc. On arrête de compter.
Marie-Reine Mezzaroba, il y a un très beau passage dans votre livre où vous parlez de Marie, la mère de Jésus, et d'Élisabeth, sa cousine. Et vous dites qu'Élisabeth est capable de partager la joie de Marie parce que elle n'est pas jalouse. Elle aurait eu des raisons de l'être?
Ben, je trouve, parce que, d'abord, Élisabeth, elle a dû attendre très, très, très longtemps pour être mère. Donc, ça lui vient tard. Alors, elle a quand même une très grande joie d'être mère. Mais elle sait bien que son enfant, c'est pas Jésus. Et elle dit, comment ai-je cette joie que la mère de mon sauveur vienne à moi? Alors ça, quand même, elle voit bien qu'il y a une différence entre Jésus et son fils à elle, Jean-Baptiste. Et donc, il y a aussi une différence entre elle et Marie. Hein, donc, elle voit bien qu'elles ne sont pas au même endroit. Et au lieu d'être jalouse en disant « Et pourquoi elle est comme ça et que moi, je ne suis que ça ?» Elle est complètement dans cette joie de la venue du Sauveur. Et justement, elle accepte cette différence des places qui fait que Jean-Baptiste est le précurseur. Enfin, on va retrouver la même chose dans la relation entre Jean-Baptiste et Jésus. C'est d'accepter la différence des places, d'accepter que Jean-Baptiste, il a un rôle à fond. Il faut qu'il tienne son rôle et il faut pas qu'il convoite le rôle de Jésus. Il est là pour conduire à Jésus et il faut qu'il soit complètement dans son don, dans sa vocation, sans lorgner dans le don de Jésus.
Nous disions que le rêve de l'homme, c'était d'abolir la différence, comme ça il n'y a pas de jaloux. Là, justement, avec Marie et Élisabeth, ou Jésus et Jean-Baptiste, voilà deux personnages qui sont différents ou différentes et qui se reconnaissent mutuellement.
Qui se reconnaissent. Alors, elles se reconnaissent complètement à la fois comme, c'est-à-dire qu'elles voient bien toutes les deux qu'elles ont reçu une grâce immense. Jean-Baptiste aussi et Jésus. Et Jésus même lira son propre destin à travers celui de Jean-Baptiste. Il voit bien ce qui va lui arriver à travers ce qui arrive à Jean-Baptiste. Donc, ils sont à la fois comme et à la fois pas comme. Hein, c'est-à-dire, chacun est à sa place. Et c'est pas la place du voisin. Et tout ça, c'est pour l'unique esprit de Dieu qui vient dans le monde.
Vous parliez de l'humilité. On sait aujourd'hui, on en a déjà parlé avec vous, que la société veut des gagnants, veut des winners. Donc on peut toujours être tenté de croire que la vie est meilleure à côté. C'est un combat au jour le jour de lutter contre cette idée-là, justement.
Oui, je crois que c'est un combat. Je pense que ça nous reprend en permanence. Hein. Et puis, on a ce mouvement toujours de se dire, quand on a des talents, quand on a quelque chose, d'avoir peur de le perdre. Et c'est vrai qu'on le perdra. Donc, on a toujours peur d'être trouvé déficient, quand vous parliez de l'humilité. Il faut consentir à être déficient. Mais il faut que la découverte de notre déficience ne nous fasse pas nier l'endroit où la vie continue à se donner, l'amour continue à se donner, jusqu'à notre dernier souffle.
En quoi la prière peut-elle nous aider à peut-être identifier la jalousie, la traverser?
Je crois que la prière, enfin, moi, j'aime beaucoup la prière des psaumes, et je crois que la prière permet d'être devant Dieu en vérité, c'est-à-dire de pas venir avec des sentiments qu'on n'éprouve pas, et qu'il faut pas censurer sa prière, il faut la dire avec sa colère, et y compris quand on est jaloux, il faut pouvoir soit dire ah mais quand même c'est pas juste, enfin je crois qu'il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, et Dieu répond à notre appel, à notre cri, en nous faisant faire le chemin de sortie. Il nous fait trouver la sortie.
Mais il y a des psaumes spéciales jalousie?
Il y a des psaumes qui disent « Délivre-moi de mon ennemi ». Penser la jalousie comme un ennemi, ça m'intéresse bien. Parce que on a tendance à penser que nous sommes jaloux. Comme si c'était nous. Or nous sommes d'abord créés bons. Nous sommes essentiellement faits pour aimer, pour être heureux. Donc c'est quelque chose, la jalousie, c'est quelque chose qui s'attaque à nous. Et pouvoir prier en disant « délivre-moi de mes ennemis, saccage-le, massacre-le », on peut prier comme ça de notre propre jalousie, de notre colère, de notre esprit de vengeance, enfin, de notre dénuement, ou bien même dire « regarde dans quel état je suis quand même, viens à mon aide ».
Est-ce qu'on sort un jour définitivement de la jalousie sur cette terre, Marie-Hélène Mezzaroba, dans sa vie?
Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a des personnes qui s'acheminent quand même vers quelque chose où la jalousie n'a plus beaucoup de place. Mais je pense que c'est vraiment un chemin. Je ne sais pas si on en sort définitivement, mais peut-être qu'elle devienne de moins en moins opérationnelle. Peut-être qu'on peut y croire de moins en moins. Peut-être aussi se dire, je suis malade, j'ai besoin du docteur. Et puis se laisser guérir, se laisser remettre à flot.
Dans notre trousse de soins, il faut emmener votre livre qui s'intitule « La jalousie, ce que dit la Bible sur la jalousie ». Il est paru, ce livre, chez Nouvelle Cité. Merci à vous, Marie-Hélène Mezzaroba. Merci également à Antoine Picot, à la technique.